Bonjour à tous et à toutes, bienvenue sur Fréquence Mistral pour un nouveau numéro de 100% foot spécial Olympique de Marseille. Aujourd'hui, on va consacrer une large page à la situation de crise qui règne au sein du club phocéen, avec pour m'entourer Patrick qui est là. Bonjour Patrick.
Salut, bonjour à tous.
Et deux invités, William et Alain, qui m'accompagnent durant cette heure pour évoquer toute l'actualité du football local et de l'Olympique de Marseille.
Bonjour à tous. En aparté, je voudrais dire un grand bonjour à Franck et un bon établissement.
Voilà, on a une pensée pour Franck qui n'est pas parmi nous aujourd'hui. Voilà, on pense très fort à lui et on espère le retrouver dans nos studios pour une prochaine émission très rapidement. Voilà, on va démarrer d'abord avec un petit mot sur le foot féminin et les filles de Corinne Jack qui jouent leur dernière journée après avoir réussi le maintien la semaine dernière face à Lens. Demain à Turquin, à Martigues, face à Dijon.
On espère que ça se passera bien. Disons que le maintien est assuré. Tu as des jeunes, des filles assez jeunes qui ont débuté, qui se sont installées. C'est relativement positif. Il y avait un peu des problèmes à régler, mais bon, on sait que Diacre, elle est assez carrée là-dessus. Elle ne fait pas beaucoup de cadeaux. Mais en tout cas, tu as un objectif, le maintien est obtenu. Tu te maintiens assez tranquillement en chiffres. Et maintenant, il va falloir essayer de renforcer un peu cette équipe pour essayer d'aller... Alors, je ne parle pas d'aller titiller les Lyonnaises, c'est injouable. Mais enfin, d'aller se trouver dans les 5-6 au milieu de tableau pour être tranquille et pas regarder à quelques points derrière les autres. Mais c'est plutôt une saison positive et... Il y avait eu un bon recrutement et ça a été une saison positive. Voilà. Seul petit bémol, si tu permets.
Vas-y, Patrick.
C'est le match au Vélodrome.
Contre Montpellier, voilà, au mois de fin mars.
Voilà, moi j'y étais. Les filles ont été, à mon avis, tétanisées par le stade. Voilà.
Ouais, mais
ils n'ont pas fait leur match.
Il faut revenir sur le club. Ils sont tétanisés, ils choisissent OM Montpellier en plein Vélodrome, comme je l'ai dit l'autre fois. Oui. Il faut leur donner un peu l'habitude. C'est un ressenti après pour les joueurs. C'est trop d'un coup.
Et c'est du coup, tu prends un but à la première minute, ça t'a coupé les jambes. Mais c'est dommage, mais enfin, en tout cas, la saison est correcte. Voilà.
L'objectif est atteint.
L'objectif est atteint, tu montais de Ligue 2, tu te maintiens. Il y a quand même un sacré gap entre la Ligue. La preuve, c'est que les équipes qui vont descendre, Saint-Étienne, Lens, les équipes qui sont dans la charrette, c'est les équipes qui viennent de monter. Hein.
Et après, il faut espérer que l'OM, le club, mette les moyens.
Ah oui.
Voilà. Parce que s'ils n'arrivent pas en haut, je ne vois pas pourquoi en bas, ils vont y arriver.
Oui, voilà. C'est la première saison de Corinne Jack. Comme c'est la première saison, il faut laisser voir cet été confirmer.
Je n'ai même pas dit qu'elle reste.
Oui, elle devrait rester. Elle a un contrat.
Oui, mais les contrats...
Ça ne veut plus dire grand-chose, mais
soyons positifs.
Oui, surtout que la moutarde, elle est bonne à Dijon.
Voilà, on va refermer le chapitre féminin. Et avant de passer à la Ligue 1 et à l'Olympique de Marseille, un petit mot sur le National avec cette équipe de Aubagne-Herbelle qui s'est inclinée de nouveau à domicile face à Saint-Brieuc. 2-1 face à la Lanterne Rouge, dernier du classement de National.
Incroyable.
Heureusement qu'ils ont un matelas d'avance par rapport à Châteauroux, qui est premier relégable. Du coup, comme ils avaient fait un gros début de saison, depuis janvier, deuxième partie de saison, c'est la catastrophe. Hein. Ils enchaînent les mauvaises performances.
Ils sont déjà en vacances.
Voilà.
Il y a eu le départ du coach aussi, Gabriel Santos, qui a été remplacé par...
Par rapport à ce que expliquait William, moi je pense qu'il y a un truc, c'est que le problème de cette équipe, il y a plusieurs joueurs prêtés. Donc ils arrivent en fin de prêt, ils sont bons. Le jeune attaquant prêté par Saint-Étienne, Maïla, qui n'est pas mauvais, hein, qui est un jeune espoir de Saint-Étienne, tu sens que le gars, il n'est plus là. Voilà, il a joué, ça fait 2-3 fois, je regardais en général, sauf le soir où on jouait un championnat au Vélodrome, hein, donc je n'ai pas bu, sinon je regardais les matchs. C'est d'ailleurs des fois des purges. Mais tu as des gars que tu sens qu'ils sont en fin de contrat, qu'ils sont bons. C'est une équipe qui va beaucoup bouger. Il y a une nouvelle entraîneur qui est arrivée il y a quelques semaines. Et donc, tu sentais une équipe démobilisée. Alors que Saint-Brieuc, qui est relégable, les mecs se sont battus. Parce que franchement, ce n'est pas terrible. Hein. Le match, c'était médiocre. Hein. Mais les mecs se sont battus, se sont accrochés. Et toi, tu sens qu'il y a une partie des mecs qui ont déconnecté. Quoi.
Comme le maintien est déjà assuré, voilà, au même titre que les filles des Marseillaises.
Après, comme tu dis, les joueurs prêtés, c'est un problème quand même. Parce que peut-être qu'ils ne veulent pas se blesser, ils ont leur club derrière, ils veulent jouer un peu. L'OM connaît le cas aussi.
Tu as des jeunes d'Herbel qui sont intéressants. Il y en a quelques-uns. Moi, j'ai trouvé des gamins de 17-18 ans qui avaient du ballon sur les matchs que j'ai vus. Seulement les mecs, ils jouent un peu pour se montrer. Tu as des mecs prêtés, ils savent qu'ils sont bons. Voilà, tu as des gars qui...
Il y a un manque d'envie, d'implication.
Voilà, tu sens qu'il y a des niveaux différents dans l'équipe. Et à un moment donné, ben, un groupe, une équipe, c'est une équipe. Il faut que ça se soude. Et ce qui faisait leur force en début de saison, c'était le courage. C'était que c'était vraiment une équipe. Et là, l'équipe, tu l'as plus. Il faudra qu'ils réfléchissent à la saison prochaine. D'avoir un groupe avec des mecs sous contrat, que les mecs y restent, parce qu'au moins, comme on dit bêtement, tu mouilles le maillot. Parce que là, tu as des gamins, c'est son dernier match, avant-dernier match, il ne va pas risquer la blessure, il va pas. Voilà, il est déjà rentré chez lui, le gars. Quoi, voilà.
Oui, il y a des joueurs plus confirmés qui ne se projettent pas sur le moyen long
voilà,
terme.
Oui, club, voilà, ils ne se projettent pas. Alors que les équipes, moi j'ai vu des matchs des équipes qui ne sont pas forcément extraordinaires, mais les mecs ils sont sous contrat et c'est leur voilà, ils tiennent à rester, donc ils se battent jusqu'au bout. C'est pas forcément, il y a un peu un délitement de l'équipe. J'en parle parce que on va arriver, quand on va parler de l'OM, on va arriver à un phénomène qui ressemble.
C'est un parallèle.
Ouais, voilà, c'est les mecs qui n'ont plus envie.
C'est vrai que la situation de cette équipe d'Aubagne-Herbel, elle est un peu similaire, identique à celle de l'Olympique de Marseille en Ligue 1.
Toute proportion gardée au niveau des salaires. Voilà.
À la même échelle.
Et au niveau des mentalités, hein, les mecs, ce n'est pas des mauvais gars. Quoi. Mais le jeune de Saint-Étienne, il a 19 ans. Son club va peut-être monter en Ligue 1. Il est en train de... Voilà, il va pas se blesser gravement en jouant pour Aubagne, hein, sur un terrain qui est pas en bon état. Hein.
Oui, c'est
à deux journées de la fin, bon, le SCAB est 12e avec 33 points. Et là, prochain rendez-vous, ce sera un déplacement en région parisienne face au Paris 13 Atlético pour essayer de se remettre dans le bon chemin.
Voilà. C'est les vacances.
Ce samedi à 19h30.
Voilà. Oui, mais du moment que mathématiquement, ça y est, ils sont maintenus.
Tu as un petit phénomène de décrochage. On en parlera avec la Ligue 1. Tu as des clubs, tu regardes les matchs, tu vois Brest. Sans que les mecs soient au milieu du tableau, ils n'ont rien joué, ils sont maintenus.
Patrick, il y a des équipes qui jouent quand même le jeu.
Oui, il y a des équipes qui jouent le jeu.
Faut dire le jeu.
Mais c'est vrai que je disais Brest parce qu'ils ont pris 4-0 au Paris FC. Tu sens que les mecs, ils ont... D'ailleurs, Roy, il a gueulé Eric Roy, il n'a pas aimé du tout. Mais les mecs, tu sens qu'ils ne sont pas là. Quoi.
Tu parles d'Eric Roy, j'aimerais bien qu'il signe à l'OM comme entraîneur.
Ah oui,
voilà.
Pourquoi pas. Et voilà. Bonne idée. Ça connaît la maison. Hein.
Pour fermer le chapitre national, y aura un dernier match à Delattre de Tassigny à domicile face au Stade Malherbe de Caen vendredi prochain, le 15 mai à 19h30. Mm-hmm. Donc... un match, deux rencontres dénuées d'enjeux pour vous.
Thierry, parlons de l'OM.
Voilà, on va enchaîner immédiatement avec le gros sujet, voilà, la crise à l'Olympique de Marseille. Et d'abord, ce match face au Football Club de Nantes samedi après-midi à la Beaujoire avec une défaite 3-0. Une réaction déjà sur le résultat et le match en lui-même. Qu'en retenir, si ce n'est... Une humiliation, une de plus, j'ai envie de dire, dans une saison cataclysmique.
Moi, j'ai fait le tour de tous mes amis. La moitié n'ont pas vu. Il y en a qui l'ont quitté à la mi-temps. Il y en a qui mangeaient à la mi-temps. Il y en a qui sont revenus. Il y en a qui sont allés faire du vélo. C'est ça l'Olympique de Marseille cette année.
Voilà.
On peut faire ce qu'on veut.
En cette fin de saison, hein, précisons. Parce que
non, mais sur le match de Nantes,
on en parlera. Moi, le match de Nantes, à la mi-temps, on se regardait en disant on a de la chance de ne pas être mené. Parce que c'est Delange qui te sauve la mise à deux reprises au moins.
Le pauvre Delange.
Voilà, oui. Lui, au moins, il a fait son match. Il a fait ce qu'il a pu. Il ne peut rien sur les buts. Et Delange, il te sauve la mise. Mais en première mi-temps, tu avais été mauvais.
C'est pas un cadeau.
Mais en deuxième mi-temps, et moi, ce qui me choque et qui me pose problème, c'est que cette équipe de Nantes, elle est faible. Ouais. Franchement, ils ne sont pas bons. tu comprends qu'ils vont...
Ben, quand on regarde le classement de Ligue 1, avant-dernier, à deux journées de la fin, et comme le bilan du AC Nantes cette année, c'est 3 entraîneurs, 19 défaites, 8 matchs nuls et 5 victoires, dont 2 contre l'Olympique de Marseille. Avec, on se rappelle le match aller en début d'année civile, le premier match de l'année 2026, avec une victoire 2-0 pour les joueurs d'Ahmed Kantari. À l'époque, c'était Kantari qui était sur le banc nantais. Et aujourd'hui, Vahid Halilhodžić qui était suspendu pour la réception de Nantes samedi après-midi à la Beaujoire.
Mais quand tu regardes, c'est une équipe faible. Ils vont descendre et tu comprends pourquoi. Mais les mecs se sont battus. En fait, au début, ils avaient peur, ils n'y allaient pas trop. Puis quand ils ont vu que toi, tu ne jouais pas, ben, ils ont essayé. Ils se créent des occasions vers la demi-heure. Hein, mais parce que au début de match, ils étaient bloqués derrière. Et en seconde mi-temps, il marque 3 buts en 10 minutes.
En 8 minutes, voilà. Entre la 50e et la 58e minute.
Et après, il joue à la baballe, tranquille.
Pour tout te dire, Patrick, j'étais à table. Ouais, mais... Premier quart d'heure, j'ai loupé les 3 buts de Nantes. Mon cousin, je reviens à table. Ouais. 3-0, il a pris son vélo, il est parti.
Voilà, encore un ex qui remarque contre l'OM. Oui, Cabella. 3 matchs d'affilée.
Ouais, mais c'était pas le plus mauvais, Cabella.
Mais depuis 1984, on n'avait pas eu 3 matchs d'affilée où 3 ex, ils avaient marqué contre l'OM sur 3 matchs.
Après, William, c'est toujours une affaire salariale pour que le joueur y reste.
Mais c'est vrai que Rémi Cabella. Rémi Cabella avait déjà trouvé l'ouverture au Vélodrome lors du match aller sur un penalty.
Mais c'est les deux seuls buts qu'il a mis dans la saison. Il a marqué au match aller.
Mais le problème, c'est que après Nantes, ils ont profité, hein, voilà. Mais à mon avis, ça les amènera pas. Ils vont tomber. Ils vont être relégués. Mais ils se sont battus. Ils ont couru. Ils ont essayé. Ils sont faibles. Hein. Oui, qu'est-ce qu'ils ont raté,
dernière chance, mais il y a certains joueurs peut-être qui se sont vendus par rapport à ce match-là.
Les mecs ont joué, quoi. Le problème n'est pas Nantes.
Après, il y a eu des résultats le lendemain qui ne leur ont pas facilité la tâche. La GOCR qui s'est imposée 3-1 face au Sco d'Angers, avec une équipe d'Angers déjà assurée du maintien qui était peut-être démobilisée pour cette rencontre.
Après, Auxerre, c'est pas mauvais, ça joue bien.
Auxerre, il en reste 2 matchs. Il joue contre Nice et il joue contre Lille. Mathématiquement, ils sont à 5 points. Ça veut dire que Nantes, en battant l'OM, ils sont revenus à 5 points d'Auxerre. Si on fait le scénario du pire, ils perdent leurs 2 derniers matchs. Dans le même temps, Nantes, ils gagnent leurs 2 derniers matchs. Ils peuvent être barragistes et revenir à...
Il y a encore une possibilité pour cette équipe nantaise de se sauver.
Pour les Nantais, c'était le match de l'année.
Oui, mais après Nantes, la prochaine journée, ils jouent à Lens.
Vendredi soir, lors de la prochaine journée.
Lens, c'est fini.
Et après, ils terminent en recevant Toulouse. Donc, c'est pas très compliqué. Mais
attention à cette équipe de Toulouse, elle est un peu...
Ils jouent à Lens à quelques jours de recevoir le PSG dans le match en retard qui avait été reporté. Je ne vois pas les Lensois lâcher les points contre Nantes.
C'est 6 points de retard sur Paris.
Est-ce qu'on peut dire aussi, rappeler à nos auditeurs...
D'après moi, il va mettre quelques jours au repos, l'entraîneur de Lens.
Oui, mais
il va faire tourner.
Il y a tellement de marge. Quand tu vois l'équipe de Nantes samedi...
Il peut faire tourner.
Il y a tellement de marge qu'il peut se le permettre.
Et puis, il va faire plaisir à son public.
Il met les mecs sur le banc. Si ça ne va pas en seconde mi-temps, il fait rentrer. Voilà.
Il joue la finale de la Coupe de France. Il pense à tout.
Il y a une finale de Coupe à préparer dans 2 semaines.
Voilà,
donc,
et les mecs, ils vont être motivés parce qu'il y a une place à gagner pour la finale. Donc... Je ne vois pas, même si j'aimerais pour eux, mais je ne vois pas Nantes s'en sortir. C'est trop... Par contre, il y a une possibilité qu'Auxerre arrive à gratter Nice.
Oui, en les battant. Le prochain match ce week-end, c'est Auxerre.
Voilà, s'ils arrivent à battre...
Auxerre joue Nice,
s'ils les battent, ils reviennent à 2 points, c'est compliqué.
Mais pour moi, les Canaries sont cuits.
Oui, les Canaries, mais... C'est les équipes, après, ça fait, comme on dit, ça fait les années qui tournent autour, qui sont en bas de tableau, qui évitent les barrages. Ils ont même joué les barrages de maintien, Ligue 1, Ligue 2.
Mais là, ces dernières années, cette équipe de Nantes, elle a frôlé avec la relégation à plusieurs reprises.
Ils avaient fait le choix de prendre Comboiré, que certains critiquent. N'empêche que le barrage Ligue 1, Ligue 2, ils sont maintenus. Et il a même fait gagner une Coupe de France au milieu, je ne sais pas comment.
Cette année, c'est la seule équipe de Ligue 1 qui a utilisé trois entraîneurs au cours de la même saison. Avec Luis Castro, Ahmed Kantari et Vahid Halilhodžić pour terminer.
On voit que Comboiré avec le Paris FC, la preuve.
Mais oui, je vois pas pourquoi
il est arrivé à Paris FC, il a relancé le Paris FC.
Je ne vois pas pourquoi il est critiqué, cet entraîneur. Oui, j'aurais même pris à l'OM.
Parce que... Oui, je pense que lui ne serait pas venu, il aime passer parisien lourd.
Il n'a pas une culture
marseillaise. Par contre, c'est le type d'entraîneur qu'il t'aurait fallu, plutôt que Bay, j'anticipe et je commence sur le débat, parce que c'est quand il y a une équipe en crise, il faut des entraîneurs qui aient l'expérience de la gestion des crises. Et on peut dire ce qu'on veut. Tu prends Nantes, Castro, c'est un bon entraîneur. Il avait fait du super boulot à Dunkerque en Ligue 2. À Levante, ils vont arriver à se maintenir en Ligue 1 espagnole, alors qu'ils étaient largués à 10 points. Mais il est arrivé à les refaire revenir. Problème, ce mec qui fait du jeu, qui a un style, mais tiens, personne. Tiens, pas de joueur.
Castro, il est trop fidèle à son jeu.
Elle est bonne.
Fidel Castro, oui.
Elle était facile.
Sortir, celle-là. Hein. Ouais. Allez, parlons de l'OM.
Il faut savoir s'adapter. Il ne faut pas rester idée fixe, sinon on devient astérix.
Voilà, et c'est vrai que, bon, pour terminer là-dessus... moi, j'aime beaucoup personnellement Big Babe, c'est un ancien joueur. J'ai encore en mémoire l'époque avec Drogba, les années et tout.
Oui, mais c'était une époque.
Il a été capitaine, c'est un battant, c'est un guerrier. Mais je pense que c'est un jeune entraîneur qui n'a pas l'expérience et gérer.
Mais son bilan est très mauvais depuis qu'il est arrivé à l'Olympique de Marseille.
Si c'est l'ami Abenatia, il l'a mis dans une boucherie pas possible.
Ah oui, il l'a envoyé à l'abattoir.
Et bon, ce qu'il faut souligner aussi, c'est que dans la même saison, se faire éliminer deux fois de la Coupe de France à un mois d'intervalle avec deux clubs différents, contre l'Olympique de Marseille et le Stade Rennais face au Toulouse Football Club avec l'Olympique de Marseille. C'est une première dans l'histoire de la plus prestigieuse des compétitions nationales.
Coupe de France, oui.
Voilà. Non, mais Benatia, il n'a pas fait un cadeau du tout.
Non, il n'a pas fait parce que moi, je pense que le problème, il était indifférent. Alors, à Rennes, il faut être honnête. Quand il est venu en remplacement, il a fait du bon boulot. Il a maintenu l'équipe. Après, il a eu des conflits parce que quand tu entraînes...
Mais Patrick, rappelle-toi comment ça s'est terminé avec le Stade Rennais, notamment avec Seko Fofana et Brice Samba.
Ça s'est terminé en guerre ouverte. Mmh. Le problème, c'est qu'il entraînait ses débuts d'entraîneur. Il était au Red Star en national, en 3e division. Les mecs, ils t'admirent.
Et il avait comme adjoint Pierre Sage, entraîneur de l'Olympique Lyonnais, actuellement sur le banc du Racing Club de Lens.
Actuellement à Lens. Mais c'était les mecs, ils admiraient. C'était le commentateur de Canal+, qui était le meilleur commentateur télé. Voilà, c'était la star des commentaires en télé. Donc les mecs, ils admiraient, ancien international. Tiens, national, les mecs, ils t'admirent. Tu arrives en Ligue 1. Dans une équipe qui joue l'Europe, parce que Rennes est une équipe qui joue l'Europe. Tu as des gros, des internationaux, des costauds en face. Les mecs, tu leur parles pas pareil, ils t'écoutent pas de la même manière.
Après, moi, je pense que Benatia n'avait pas trop le choix, hein, parce que ça ne devait pas se forcer au portillon de venir à l'Olympique de Marseille à 6 ou 7 journées de la fin.
Mais au moment où on décide de se séparer de Roberto De Zerbi, qui y a sur le marché comme entraîneur?
Voilà, c'est pour ça. Après, c'est une question de temporalité aussi. En février, au moment où De Zerbi jette les poches.
Non, parce que quand tu regardes, moi je lisais sur l'équipe, il y avait Conceição, le Portugais qui avait entraîné un peu 6 mois.
Actuellement en poste en Arabie Saoudite.
En Arabie Saoudite, qui voudrait rentrer en Europe. Et qui était intéressé. Lui, dès qu'il y a un truc dans un gros club...
On parle de lui en Italie pour la saison prochaine.
On parle de lui en Italie. Il veut partir d'Arabie Saoudite. Il est parti de Porto. Il aimerait revenir en Europe. Et donc, lui, il était éventuellement... Mais la différence, c'est que tu fais peut-être pas ce que tu veux avec Conceição qu'avec ton copain Bey qui débarque.
Après, il y avait une solution, Pancho Abandonado. Je veux dire, tranquille, 6 journées.
La solution interne pour assurer l'intérim jusqu'en fin de saison.
Bey, il venait en juillet, tranquille. Il remontait son équipe. C'était un peu plus...
Le problème, c'est que je pense qu'il y a eu des trucs qui n'étaient pas prévus. Moi, je pense que le départ de De Zerbi, c'est... Ça commençait à se rentrer dedans, il y avait des conflits internes pas possibles. le départ est de Dezerbi et de Longoria, parce que rappelons quand même que les joueurs de l'effectif actuel, qu'on critique à juste titre, la plupart c'est Longoria qui les a recrutés. Donc les mecs, ils avaient un lien, un mec comme Greenwood, son père qui s'occupe de ses affaires, s'entendait très bien avec Longoria, ils se téléphonaient, ils se parlaient, ils débriefaient les matchs. Donc tu as rompu le lien, et on sait qu'ils ne s'entendent pas du tout, et bien là, tiens.
Mais dans le sens de ce que tu dis, c'est qu'au moment où Longoria il fait venir ses joueurs, c'est quoi l'argument qui fait qu'ils sont venus à l'OM?
C'est Dezerbi.
C'est le fait qu'il y avait Roberto Dezerbi. Oui, donc le fait qu'on fasse le choix de se séparer de Roberto Dezerbi, pour la jeune génération qui joue à l'OM en ce moment, Abibay, nous, on connaît l'histoire d'Abibay.
Oui, mais l'histoire.
C'est qui pour Abibay?
Le passé d'entraîneur d'Abibay, il n'a pas une carte de visite qui plaide forcément en sa faveur.
Tu prends le jeune anglais Nwaneri. Moi, j'avais un collègue, on regardait le match à la télé. Enfin, je veux dire, on était un certain nombre. On s'est saoulé la gueule après pour oublier. Et pourquoi il ne met pas Nwaneri? Le mec, il est venu prêté par Arsenal pour jouer avec Dezerbi. 15 jours après, il s'en va. Le club, il est en crise. Le mec, il ne sait pas ce qui se passe. Et le mec, il n'a pas envie. Le mec, il est bloqué. Il ne joue pas.
Tétanisé. Mais je pense que...
Mais ils auraient dû le prêter à Tottenham, vu que Dezerbi, il est parti là-bas.
Non, mais c'est un gamin de 18 ans. Il a été prêté, puis ça se passe mal. C'est pas sur lui, il s'en bat.
Et le fait de l'avoir aussi envoyé au feu pour tirer tir au but en Coupe de France face à Toulouse, ça n'a pas facilité les choses.
Le problème, c'est que pour Arsenal, il y avait eu déjà un antécédent avec William Saliba où ils avaient réussi à relancer le joueur. Donc, du coup, ils se sont dit, puisque ça a marché avec William Saliba, on peut tenter le coup avec
Voilà. Le problème, c'est que quand tu as des joueurs prêtés, moi, je regarde les équipes que tu fais jouer. Tu fais jouer Vermeeren. Vermeeren, il est prêté par le Red Bull Leipzig. Et on sait qu'on a déjà dit qu'on ne lèverait pas l'option d'achat, 21 millions ou 20 millions, tu ne la lèveras pas. Il a fait une saison avec des bons matchs et des mauvais matchs, enfin voilà. Et le mec, tu le fais jouer. Et il est même titulaire. Contre Nice à Vélodrome, il était titulaire. Là, il est...
Et là, il a remis ce match à la Beaujoire samedi face à OFC Nantes.
Quelle peut être la motivation du gars qui est un échec, qui sait qui s'en bat,
qui va pas être conservé,
qui est déjà en train de chercher le club où il va atterrir, parce que un groupe explosé. Et voilà, un groupe explosé, pas de leader qui parle, un entraîneur que tu n'écoutes pas, avec qui ça se passe pas, ça passe pas du tout. Moi, d'après ce qui se dit dans les trucs, il a jamais été accepté, Bay. Oui, jamais.
Dès le départ.
Dès qu'il est arrivé, le stage s'est pas trop mal passé à Marbella, les mecs, ont réagi. Tant qu'il y a eu un ou deux leaders, ça a été Aubameyang contre Lyon qui t'a tiré l'équipe. Aubameyang, il est free parce qu'il n'en peut plus.
Mais sur les échos, j'ai entendu qu'il les faisait travailler physiquement.
C'est sur sa méthode de travail qu'il a été remis en question.
C'est pas en fin de saison qu'on les fait travailler physiquement.
Oui, parce que
c'est plutôt mentalement.
Voilà. Et quand tu regardes, par exemple, Ahmed Traoré qui se pète en fin de match.
Voilà, Ahmed Traoré qui a terminé sa saison samedi, qui souffre d'une lésion au mollet.
Et tu as plusieurs joueurs. Tu as eu l'anglais Egan Riley, là, le défenseur central remplaçant. Tu avais eu Emerson Palmieri. Tu as
Naïef Aguerd.
Moi, je pense que s'ils perdent contre Le Havre, ils mettent la réserve dernier match. Parce que ça va être apocalyptique.
Ah oui, pour éviter que les mecs se fassent huer avant...
Ils vont envoyer les jeunes, ça va un peu calmer tout le monde. Oui, au moins la moitié de l'équipe.
On reste sur deux défaites à l'extérieur contre Lorient et Nantes. Ouais. Je ne veux pas noyer le poisson.
Moi, c'est un conseil que je donne à M. Benatia de mettre la réserve.
Non, mais...
Le Havre, ils ont encore besoin de points pour ne pas descendre.
Ils préparent déjà ses valises pour la Coupe du Monde.
Le Havre, il leur manque un point. Hein.
Ah, voilà, justement. Mais le Havre, ils ont une source de motivation pour jouer le match.
Non,
le Havre, on a une source de motivation.
Puis le mec, je sais pas si
cette équipe du Havre qui avait explosé en plein vol lors du match aller face à l'OM, je ne sais pas si vous vous rappelez. 6-2, le match avait lieu il y a 7 mois en octobre dernier.
Ils ont peut-être ça dans la tête aussi.
Non, je ne pense pas, c'est pas rancunier.
Si, je pense à tout.
Non, mais les
et
mecs...
Je ne sais pas si vous vous rappelez des buteurs, il y a eu un quadruplé de Mason Greenwood, un but de Robinho Vaz et un but d'Amir Murillo. Les deux derniers
Et le premier, il est déjà en voyage. Déjà
voilà. Non, mais le problème, c'est que Le Havre, tu as l'occasion, tu as son dernier match à la maison. Voilà.
Donc, et cette équipe du Havre qui restera un très bon match nul face à Lille
voilà,
le week-end dernier.
Un bon match nul qui a besoin d'un point pour être assuré si les autres font le, ce qui est peu probable. Donc les mecs, tu reçois l'OM, tu as l'occasion de briller, tu les as vus contre Nantes, ils ne courent pas.
Stade plein.
Les mecs, stade plein, les mecs, ils vont jouer.
C'est quoi la dernière
situation ? Si d'entrée, tu les prends à la gorge, tu leur en mets un ou deux, que tu les aboines, les mecs, ils vont, voilà. Si tu les laisses prendre confiance, les Nantais, tu les as laissés prendre
avec
confiance.
Avec un peu de chance, le maire Édouard Philippe sera dans les tribunes.
Voilà.
Hein, voilà. Hein, on ne fait pas de politique. Hein.
Voilà. Mais, non, mais le truc, c'est ça. C'est-à-dire que si tu joues au Havre comme tu as joué à Nantes, tu vas perdre. Ouais. Parce que tu ne joues pas.
Là, Bibay pourra compter sur le retour de Timothy Weah et Benjamin Pavard qui étaient suspendus samedi à Nantes.
Quel retour.
Après,
Moi,
Weah, c'est une bonne chose parce que c'est un des rares qui se bat.
Rester Weah ? Ça, la question qu'il faut se poser maintenant.
Voilà. Mais après, Pavard, il est prêté. Tu sais que tu ne le gardes pas. Tu as déjà dit à l'Inter que tu...
Rulli, il s'en va.
Voilà. Rulli, probablement, il s'en va.
Non, c'est presque fait.
Donc, tu vas faire jouer des gars qui sent bon. Quelle est la motivation?
C'est le seul qui peut rester, c'est Medina. Il parle beaucoup sur le terrain.
Oui.
Mais là, il reste encore deux matchs, messieurs, si on vous écoute. Il y avait six jeunes sur la feuille de match face au FC Nantes samedi.
Tu peux en mettre 10, là, contre
l'Arbre. Ils vont finir en roue libre.
Le problème, par rapport à ce que tu dis, Alain, c'est pas un cadeau que tu fais aux gamins. Les gamins, tu les envoies à l'abattoir.
Ouais, mais
là, la problématique se pose.
Dans un vélodrome avec 50 000 personnes.
Non, mais je parle du Havre.
Du déplacement au Havre dimanche soir.
Après, à Rennes, je veux dire, pour calmer les supporters, tu mets les jeunes, ils seront un peu modérés.
Oui, ils ne seront pas sifflés, voilà, ils seront moins agressifs.
Ouais, moi je
pense. Mais au Havre, les gamins, tu te rends compte la chape de plomb que tu as sur le dos, quoi. Tu portes le maillot, tu as tous les mecs qui sont dehors, tu te retrouves entre gamins de la... Les mecs, ils jouent en National 3 ou en U19.
Eh oui.
Oh, ça fait une sacrée gap d'écart.
2000 supporters, ils passent à 60 000.
Voilà, et donc c'est compliqué. C'est parce que des jeunes, tu le vois avec le Paris Saint-Germain. Tu le vois. Tu as les 10 titulaires et tu mets un jeune, Mayoulou, en finale de la Ligue des Champions. Le mec, il flambe, il marque un but.
Il est soutenu.
Parce qu'il a 10 mecs autour qu'il rentre. Quand t'es là, ils en font jouer 5 ou 6 contre Lorient, ils se font tenir en échec sur leur terrain.
Et puis les jeunes, ils veulent bien faire.
Mais après, la gestion des jeunes joueurs au Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, elle n'est pas la même qu'à l'Olympique de Marseille.
On ne peut pas comparer.
Là tu es à la rue, tu envoies les gamins, démerdez-vous.
Mais comme l'a dit Bibay après le match en conférence de presse, ce n'est pas leur rendre service que de les lancer dans un tel contexte aussi compliqué. Je veux dire. Là, c'est vraiment les brûler, les faire exploser en plein vol, j'ai envie de dire.
Je pense qu'il a fait, il n'a pas fait exprès, je pense, à Bib. Mais il a fait une connerie. Le pénalty que tu concèdes contre Nice, c'est Mmadi, Tajidine Mmadi.
Nadji, l'international nigérien, arrivé cet hiver.
Mmadi, le jeune.
Ah oui, Tadji,
qui est d'origine de Frivalon, 18 ans, formé au club. Son troisième apparition en pro, il n'a jamais été titulaire, c'est la deuxième fois qu'il rentre, troisième fois qu'il rentre. Tu le fais rentrer, son plus longue rentrée, 20 minutes. Il veut défendre, il file un coup de main, il fait une faute sur Klos, qui est un vieux requin qui tombe et qui se roule par terre. Oui, se mêle, il a raté le ballon, il a chopé le pied, il a pénalty.
Le pied d'appui, il a chopé le pied d'appui.
Il est sur la ligne, il est de 10 cm à la surface.
Ça fait partie de l'apprentissage. Péno.
Le gamin, bon, il fait une connerie, il s'en veut à mort.
C'est le manque d'expérience, il se fait avoir naïvement, j'ai envie de dire.
Sur le match à Nantes, il est dans le groupe de 22, le mec qui est en tribune, qui n'est pas sur le banc, c'est lui. Ça semble une sanction, parce que tu mets les mecs qui n'ont jamais joué, joué en première...
On n'arrive pas à gérer les jeunes à l'Olympique de Marseille depuis des années.
Le gamin, tu as critiqué les mecs qui sont rentrés, qui n'ont pas fait le boulot. Alors, il s'adressait à Abdelli, qui avait fait une pas bonne rentrée.
Mais d'ailleurs, Imad Abdelli a été écarté à l'occasion du match face au FC Nantes.
Voilà. Et quand il y a des minots qui réussissent à l'OM, on les barre complètement. Je parle de l'époque des minots.
Oui,
qui avait fait un exploit.
Après, il y a une différence quand on parle des jeunes.
Mais après, il faut savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'à l'OM, on prône une politique de jeunes? Ça,
c'est très compliqué.
C'est un débat et un vaste sujet.
Moi, qui suis un vieux supporter, je me rappelle d'avoir vu débuter Samir Nasri à l'OM, 17 ans et demi. Tu le voyais jouer, tu disais, oh putain, lui, il a du ballon. Comme tu, quand tu as vu jouer Cherki à Lyon, tu dis, oh le mec, voilà. Tu vois un Mmadi, tu vois la Mare de Canmari, tu vois Camille Soko. C'est des jeunes sympas, ils ne sont pas mauvais, ils jouent bien. Mais il n'y en a pas un, tu dis celui-là, il a un truc, il est. Oh,
voilà. C'est vraiment le joueur qui est capable d'apporter un plus dans cette équipe.
Voilà, qui a du talent. Et donc tu dis, le mec, le petit jeune, il va rentrer, il va apprendre. Ça serait bien de les prêter en Ligue 2, qu'ils fassent une saison, qu'ils jouent, qu'ils apprennent et tout. Mais tu ne peux pas leur demander de les balancer à 7 ou 8 dans une équipe en leur demandant de porter le maillot. Parce que les minots, ils étaient en faillite.
Oui,
les mecs, voilà, c'était quand même un autre niveau. Tu étais en Ligue 2, hein.
Oui.
Voilà, c'était un autre niveau, en Ligue 2. À l'époque, c'était quand même moins relevé. Et les mecs, ils avaient gagné la Gambardella. Ils se connaissaient depuis 3-4 ans. Tous, c'était un groupe. C'était des amis.
Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'après, on les a tous écartés.
Ah oui.
Voilà, c'est ça. C'est ça l'Olympique de Marseille. On laisse pas de place aux jeunes.
On a écartés parce que la plupart n'avaient pas le niveau pour jouer en Ligue 1, par exemple.
Non, il fallait faire vite. Il fallait être en haut. On ne peut pas progresser.
Quand on leur laisse du temps de jeu, ils arrivent à un certain niveau. Et avec ce niveau, de suite,
quand tu bascules de D2 en Division 1 à l'époque, il faut laisser le même groupe renforcé et monter. Voilà. Mais là, il ne fallait pas. Il fallait garder tout le monde.
On en revient à l'époque actuelle, des joueurs comme Bacola, des joueurs comme des jeunes comme Vass, dès qu'ils montent, que Deserbi leur donne du temps de jeu et qu'ils arrivent à monter, qu'ils ont une valeur marchande, on s'en débarrasse directement. Sur eux, sur le moyen long terme. On cherche l'intérêt financier. Il n'y a plus de sportifs.
J'ai vu Vaz à la Roma, il a joué 10 minutes. Il rentre petit à petit. Ouais. Il ne le brûle pas. Ils ne vont pas le mettre tout le match.
Ah oui, non. Mais
hier, il est rentré la 4e-3e. Mais... Ils ont gagné 4-0 avec la S Roma.
Ouais, voilà,
il est rentré
hier
à la 4e-3e. Disons que le truc, c'est qu'après... Il y a un élément que tu n'avais pas à l'époque des minots, d'ailleurs, par exemple dans les années 80, c'était les agents, les familles. Les mecs qui arrivent, Bacola, ils ont fait une proposition, ils n'ont même pas voulu en discuter. Ils n'ont même pas fait une contre-proposition. Il était en contrat jusqu'en 2027. Tu sais qu'il ne prolongera pas, il s'en va. Ben, tu le vends.
Et à la différence des années 80...
Saison prochaine, est-ce qu'on peut éventuellement miser sur des jeunes?
Non, moi, je ne pense pas. Mais les jeunes de 1980, tu pouvais parler avec eux, leur dire bonjour, blaguer 5 minutes. Maintenant.
Oui. Non, mais après, sur ces jeunes, moi, je ne les connais pas. Je les ai vus jouer des fois en réserve et tout. Enfin, des trucs, j'ai vu quelques matchs, quoi. J'ai vu les matchs de la Youth League à la télé, quoi. Il y en a qui sont bons, hein. Il y a des mecs qui ne sont pas mauvais. Simplement, l'écart entre la Youth League, le National 3, qui est la réserve, c'est à la 5e division, et le haut de tableau de Ligue 1 où tu joues des gros matchs, l'écart, il est énorme.
Oui.
Et les gamins, il faut que tu les fasses monter. C'est pour ça qu'à une époque, je lisais un truc dans l'équipe sur Harry Kane, le joueur anglais du Bayern. Harry Kane, parce que c'était une interview de Loris, il parlait de Kane. Il disait que Kane, quand il est arrivé à Tottenham à 19-20 ans, il a été prêté en 2e division 2 saisons.
Oui.
Il est revenu, il a fait banquette, il est reparti en seconde division.
Ce qu'ils font beaucoup en Italie.
Voilà, ce qu'ils font beaucoup en Italie, tu prêtes. Et prêter des gars en Ligue 2, les mecs qui prennent de la bouteille, de l'expérience, ils jouent une trentaine de matchs, c'est intéressant. Et là, tu vois le mec moyen, tu sais qu'on en a un qu'on connaît bien, hein, l'OM, on l'a formé, c'est Laurent Abergel, le capitaine de Lorient. C'est un bon joueur de Lorient.
Revenir, lui, non?
Mais à 31 ans.
À 31 ans.
C'est-à-dire, le mec, il était parti à Ajaccio prêté. Puis finalement, il a signé Ajaccio en Ligue 2. Il s'est construit. Mais maintenant, il est à Lorient en Ligue 1. Il est capitaine. C'est un bon joueur. Mais à la trentaine, c'est des garçons...
On ne lui a jamais véritablement donné sa chance.
C'est des garçons qui font des belles carrières, mais qui n'ont pas eu le truc qui a fait que tu as franchi le gap en étant capable de jouer en Ligue des Champions.
Pourquoi on ne reprendrait pas des anciens jeunes comme Jean-Charles Debono, Michel Flos, dans l'encadrement de l'Olympique de Marseille.
Chez les jeunes, oui, tu peux.
Dans les jeunes, mais même dans l'équipe 1, là. Parce que j'ai écouté De Bono, là. Ouais. Il dit les quatre vérités. Hein.
Oui,
il ne se les cache pas. Parce que moi, je tremble dans le vestiaire, moi, c'est à Jean-Charles.
Hein. Oui, non.
Non, mais Patrick, je tremble. Hein.
Le but n'est pas de faire trembler. Parce qu'on
voit
que.
Il faut un peu, quand même.
Que Mehdi Benatia, il a essayé de faire l'adjudant-chef de carrière.
Ouais, mais...
C'est un échec complet. Ça marche
pas. Ça n'a pas du tout porté ses fruits. Donc,
c'est fini. Je parlais en rigolant. Hein. J'avais un copain qui avait discuté avec Jean-Pierre Papin. Les gens du club qu'on a virés parce qu'ils ne s'entendaient pas avec un tel.
Ouais, soi-disant. Ouais.
Voilà, passons. Et qui me disait qu'à l'époque de Basile Boli, quand il jouait à Auxerre, il avait 16 ans et demi et il avait une mobilette. Et Giroud, il avait acheté un antivol, il mettait l'antivol à la mobilette, oui. Et lui disait, je ne te file pas les clés, j'ai pas envie que tu casses une jambe. Et en rigolant, Papin, il avait dit au copain, il a dit aujourd'hui, le gamin, il te met au tribunal pour harcèlement et il te déboîte.
Alors ça, c'est une anecdote qu'on a racontée depuis la nuit des temps.
Que Basile Boli, ben, il n'avait rien dit, il râlait, mais voilà. Et il y avait son frère qui lui avait dit, il a raison. Mais c'est des trucs qui ont changé. Donc aujourd'hui, des jeunes, il faudrait qu'ils soient prêtés. Il faut qu'ils soient... Dans ton groupe, tu as 20, 22 joueurs, ils sont 19, 20e, ils rentrent et tout. Mais balarguer un gamin comme ça en espérant qu'il va te faire basculer un match, c'est très compliqué. Ouais, et ce n'est pas forcément un cadeau.
Mais sur quels critères on va repartir alors?
Non, mais tu vas être obligé de prendre des gars. L'OM, ça attire toujours quand même. Tu vas être obligé de reprendre sur une équipe où tu vas devoir... Un entraîneur, un directeur sportif qui travaille, qui essaie de reconstruire. C'est sûr qu'il y en a pour 2-3 ans. Hein. Mais
2-3 ans, t'es gentil.
Tu as fait l'erreur qu'avait fait Lens quand ils ont été en Ligue des Champions il y a 4-5 ans. Ils ont voulu acheter, ils donnent forcément des gros joueurs, donc gros salaires. Ils se sont retrouvés avec un budget énorme. Puis en Ligue des Champions, ils sont
Mais après, la situation de l'Olympique de Marseille aujourd'hui est loin d'être comparable à celle du Racing Club de Lens il y a quelques années.
Oui, sauf qu'avec ton déficit, il y a un risque, même si l'équipe a fait un article aujourd'hui, tu as l'impression qu'on est au bord de la disparition. L'exclusion des Coupes d'Europe, ça a été les Turcs parce que les mecs avaient 6 mois de salaire en retard sur tous les joueurs. Hein.
Oui, mais là c'est un enchaînement de.
Voilà, mais une amende.
D'événements qui font qu'il y a une mauvaise gestion au niveau des finances du club.
Une limitation de recrutement, une limitation du nombre de joueurs inscrits sur la liste et tout. Voilà. Et donc, ça peut te poser problème. Oui, mais on n'en est quand même pas non plus.
On parle de 157 millions d'euros. Ouais. Soyons francs, tous les joueurs qui vont finir la saison en roue libre, vous vendez des Greenwood, vous vendez certains joueurs. Vous les renflouez, les 157
oui,
millions.
Mais le problème, c'est que ça soit... Tu vas vendre à perte. Hein,
mais que ce soit la gestion des jeunes. Ou que si au début de saison, on dit on part sur un projet de 2-3 saisons, au bout de 8 mois, ce projet de 2-3 saisons, on le met d'un coup de balle, on le jette à la poubelle.
Et si les résultats, ils sont là aussi.
Non, mais parce qu'en fait, chaque saison, on reproduit les mêmes erreurs. Oui, et en fait, si chaque fois, on n'arrive pas à prendre du recul, et à se dire, si le projet qu'on a mis en place en début de saison, on s'y tient, quels que soient les résultats, le problème fondamental, je vais vous le dire, c'est qu'on est tenu par Frank McCourt, qui est un Américain. Les Américains, ils croient que le football français, c'est la NBA ou la NFL. Mmh. Les joueurs, ils viennent,
ils font souvent le comparatif avec les sports US.
Sauf qu'on n'est pas,
pas des franchises. Hein.
Sauf que
la gestion du football européen n'est pas du tout comparable à celle des sports américains.
Sauf que McCourt, il veut imposer ça dans l'Olympique de Marseille, dans sa façon de...
Sur ce que tu dis est vrai, mais il y a quand même, c'est pas aussi clair que ça à mon avis. Je pense que le choix de Stéphane Richard, ancienne de l'ENA, ancienne de
comme
HEC, futur président, le 2 juillet, on l'a mis le 2 juillet pour le protéger, pour pas subir la fin de saison et qu'il soit obligé d'intervenir sur les résultats. Si tu protèges ton mec, c'est pas idiot.
Mais après, lui,
c'est un gestionnaire, moi, syndicalement.
Il a dit lors de sa présentation au niveau du sportif, il veut pas s'immiscer dans les affaires sportives, il a une connaissance limitée du terrain.
Ça, il va y venir. On attend le 2 juillet, on va y venir.
Non, mais le problème de lui, moi, je l'ai connu quand il était président d'Orange. Il est arrivé à l'époque où il y a eu une vague de suicides, où il y avait une restructuration. Il est arrivé pour essayer de calmer, de mettre la paix. C'est un très bon négociateur, c'est un très bon économiste. Il a quand même été chef de cabinet du ministre des Finances, que Christine Lagarde, qui était ministre des Finances, c'était son chef de cabinet, elle a voulu le faire venir au FMI avec elle. Il n'a pas voulu y aller parce qu'il avait, d'autres propositions. Voilà, entre autres Orange, d'ailleurs. Mais donc, je dirais, le mec, c'est un costaud. Et lui, ce que je pense, c'est que lui s'occupera du pognon, du stade, du naming.
C'est ce qu'on demande de la part d'un président.
Et le président, il n'a pas. Le problème, c'est que tu avais mis Longoria dans une situation de crise quand il y avait eu les histoires à la commanderie, l'arbre qui brûle, enfin tout le cinéma. Parce que,
mais après, pour revenir sur le sportif et le terrain, le sportif, la gestion de cet aspect-là, il faut quand même le prendre en considération.
Il faut que tu trouves un directeur sportif, un entraîneur costaud, expérimenté, solide, parce que Marseille, il faut être solide, pas bibeille, qui repartent et qui reconstruisent.
Là, pour prendre la suite de Mehdi Benatia, on parle beaucoup de Julien Fournier, qui a déjà occupé ses fonctions il y a quelques années sous l'ère Pape Diouf.
Beaucoup de Julien Fournier, qui a fait un gros boulot à Nice aussi. Par contre, Julien Fournier, tu peux déjà faire une croix sur Galtier entraîneur, alors que Galtier, on sait qu'il aimerait bien revenir.
Il parle de Laurent Blanc.
Tu as dit Meco qui essaie de le mettre, mais Galtier Fournier, il ne se parle plus.
Il faut des mecs qui connaissent la maison. Et qui
Leur passage ensemble à l'OGC Nice.
Voilà, ouais, ça s'est très mal fini. Et parce que Fournier, il a un gros réseau. Il travaillait avec Pape Diouf dans les années 2005-2010.
Lors de son précédent passage à l'Olympique de Marseille.
Pape Diouf était président de l'OM, il a travaillé à l'OM. Après, il est parti à Nice, il est resté 10 ans. D'ailleurs, si tu ne gardes pas un mec 10 ans, s'il n'est pas... Voilà. C'est un mec compétent qui a du réseau. Mais il a des inimitiés.
Il y a des bruits qui circulent sur Laurent Blanc. J'ai même vu, là, tout à l'heure, Compagnie du Bayern, qui adore l'OM.
Oui.
Ils adorent tous l'OM.
Non, mais Compagnie, il a dit une fois, c'est vrai, qu'il avait beaucoup aimé le stade parce qu'il avait assisté des matchs au stade et l'ambiance et tout. Et c'est un mec sympa. Mais
il a joué, il me semble, avec Manchester City. Et je pense que c'est peut-être dû à son amitié avec Samir Nasri qui a été formé à l'Olympique de Marseille.
Mais le truc, si tu veux, c'est que ces mecs-là, ils viennent. On disait sur les directeurs sportifs, on a parlé de Paul Mitchell, qui a été à une époque à l'AS Monaco et qui a été à Chelsea, qui a été...
Mais Paul... Tu as quand même des références sur son CV. Hein.
Paul Mitchell, oui, Abramovich, le russe président de Chelsea, il avait embauché. Il était directeur sportif quand ils ont gagné la Ligue des Champions à l'époque de Di Matteo, Drogba et tout.
Il a quand même des références
Une sacrée référence.
Sur le plan européen.
Voilà. Et le mec... Il te dit, combien tu me donnes pour recruter 200, 300 Voilà, tu lui dis, non, on va d'abord vendre, et puis après, quand tu auras vendu, on essaiera d'acheter.
Oui, mais après, il y a une cure d'austérité qui s'annonce par rapport...
Au niveau joueur, il y a des bruits sur Pagis et Kebal du PSG.
Oui, mais les bruits, Alain,
Pagis serait pas mal.
Mais Pagis, parce que son père...
Il connaît la maison.
Son père s'occupe de lui... Et son père adore l'OM. Ben il a été joueur à la grande époque. Voilà. Oui, c'est crédible. Sauf que Pagis, vu qu'il fait une belle saison
Pablo
à l'OM...
Pablo Pagis, le fils de Michael, qui a...
Qui jouait en attaque à l'OM avec Toifilou Maoulida à droite et Mamanou Diang à gauche. Il était l'avant-centre, un super joueur. Voilà. Et puis Kebal, il est marseillais. Il vient d'Herbel. Donc le mec, il aimerait rentrer. Après... il est sous contrat avec Paris FC, il faut qu'il te le vende. Pagis, il est sous contrat à Lorient, il y a des Anglais qui seraient dessus.
Il a été formé au Burel, Kebal.
Il a une Kebal. Mais Pagis, il y a le club, c'est le club anglais de Bournemouth qui a racheté Lorient, qui est devenu actionnaire en majorité.
Ils veulent pas racheter l'OM.
Et ils avaient acheté Lee Kropi Junior, qui est international espoir, dont on parle pour un potentiel équipe de France à l'avenir et tout, ils l'ont vendu et eux, ils sont
dessus. Le père a évolué sous les couleurs des merlus de
Lorient, qui avait joué à Brest et tout. Et donc, si tu veux, si toi, tu te mets sur un mec comme ça, de suite, tu as un salaire anglais et tu as un club qui peut mettre 20-30 millions sur un joueur. C'est des choses que toi...
Donc on va essayer de tomber plus bas, alors.
Non, voilà. C'est pas ça, Alain. Le problème que tu vas avoir, c'est pour ça que la priorité, c'est un directeur sportif et un entraîneur. Oui. c'est parce qu'il va falloir que tu vendes pour pouvoir acheter.
Oui.
Parce qu'y compris, il est hors de question d'acheter si tu n'as pas vendu, de ne pas te retrouver avec des équipes.
Mais là il va falloir vendre rapidement.
Hein. Oui, mais rapidement.
Il faut boucler d'ici la fin du mois de juin et
si tu veux
ça arrive
vendre,
très vite.
Si tu veux, ce qui est un problème, c'est que tout le monde sait que tu es en galère et en difficulté.
Ben oui, on s'est mis dans la merde.
Tu regardes l'équipe, tu sais que tu as 500 et quelques millions, voilà. Donc tout le monde le sait. Donc tous les clubs, ils vont venir te proposer la somme minimale, mais même minimale de minimale.
Oui.
Voilà. Et les mecs, ils vont pas. Voilà. Donc, si tu peux pas vendre à perte
perdre si on les vend pas, le joueur, qu'est-ce qu'on devient ?
Tu es obligé d'attendre, de négocier, d'espérer qu'il y ait un second club qui vienne pour faire un peu jouer. Et donc, tu pourras pas forcément.
Mais si tu vends pas ?
Et tu vendras.
Mais non, mais au minimum, tu vas être obligé.
Tu es obligé, mais le problème.
Mais on a vu lors des années précédentes les ventes effectuées par la direction de l'Olympique de Marseille.
C'est ce qui t'a plombé, à mon avis, d'ailleurs, cette année, mais les années précédentes aussi. C'est-à-dire que tu vas au dernier moment et tu achètes à la fin. Quand tu rentres ton effectif, tu as 4-5 joueurs qui arrivent dans les 3 derniers jours. Il y avait Pavard, il y avait Aguerd, il y avait O'Reilly,
Emerson.
Mitroglou, Vitinha.
Non, mais ça,
dernière minute,
mais les mecs, ils arrivent à la fin. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas fait la préparation, ils n'ont pas l'automatisme.
Il y a une sorte de panic buy qui s'instaure chez les dirigeants.
C'est pas un panic buy, c'est qu'à un moment donné, à la fin du mercato, tiens, les clubs, ils larguent. Tant pis, tu perdras. Donc toi, tu
vas essayer. Ils sont prêts à se débarrasser des joueurs coûte que coûte, même si c'est à perte.
Tu vas essayer pour gratter quelques millions, pour ne pas vendre à perte, de négocier un peu. Donc tu ne vas pas vendre 1er juin. Et quand tu vas devoir acheter, tu vas te retrouver dans la situation où tu te retrouves, tu as des prix intéressants de joueurs qui sont, regardez par exemple Nicolas Jackson, l'avançant sénégalais qui joue actuellement
au Bayern de Munich,
au Bayern, mais qui appartient à Chelsea. Chelsea, il était barré avec deux mecs devant. Il y avait Delap et il y avait João Pedro, là, le Brésilien.
Arrivé de Brighton.
Ils l'ont prêté au Bayern le dernier jour. Oui. Le dernier jour du mercato.
Il va falloir faire les choses par étapes.
Et des trucs comme ça, tu vas devoir le faire. Parce que tu n'as pas les moyens, y compris à cause de ta situation financière, d'arriver. Donc par contre, la priorité, c'est ton directeur sportif et ton futur entraîneur. Il faut qu'ils travaillent en ça. Parce que moi, je pense...
Travailler main dans la main, ce qui n'était pas forcément le cas ces derniers mois.
C'est mon avis. Tu avais un entraîneur un peu hystérique, un peu excessif, un peu outrancier. Bon, c'est un faible mot. Tu avais un président qui avait beaucoup de mal à garder son calme, mais qui n'était pas un président, qui était un directeur sportif devenu président par la force des choses, et un directeur sportif qui n'admet pas beaucoup les critiques et qui est assez autoritaire. Et les trois, au lieu de se calmer les uns les autres, quand tu as vu que De Zerbi, ça a commencé un petit peu à partir en bris, il fallait le calmer. Mais tu n'as pas des mecs qui calment. Tu as un attelage qui a foiré.
Qui se ressemble, ça s'assemble.
Parce que voilà,
les trois, c'est les mêmes.
Parce que les
trois, c'est les mêmes. Mais là, on a essayé de...
Voilà. Et donc, tu t'es retrouvé. Parce qu'en fait, le truc, c'est que moi, ce qui me pose question, et qu'il faudra comprendre ce qui s'est passé... Comment tu peux, en début de saison, faire des gros matchs? Tu as battu Paris. Moi, je me rappelle les matchs de Ligue des Champions. Alors, je ne parle même pas de l'Ajax. L'Ajax, c'était un peu faible. Mais quand tu bats
Quand on voit le parcours qu'ils ont fait dans la phase régulière de Ligue des Champions, c'est un euphémisme que de dire que cette équipe est faible.
Mais enfin, tu avais mis 4-0, tu les avais mangés. Mais quand tu vois le match contre Newcastle, quand tu vois même à Saint-Gilles, tu prends un but con, mais tu gagnes. Les matchs que tu fais au Sporting Lisbonne, qui est quand même un quart de finaliste, que tu fais à Madrid où tu perds sur un pénalty donné au Real en fin de match. Voilà.
Oui, mais Patrick, après, il y a toute
matchs.
Une succession d'événements qu'on fait que parcours en Coupe d'Europe et en Ligue des Champions.
La question, qu'est-ce qui s'est passé qu'une équipe qui était la
meilleure... A tourné au fiasco.
Qui était la meilleure attaque
sur
du
les
championnat.
Deux derniers matchs. Rappelle-toi la conclusion. Sur les deux dernières journées de phase régulière, l'Olympique de Marseille, pour se qualifier pour les barrages, doit prendre un point. Oui. Et on en arrive à deux défaites face à Liverpool et le club de Bruges, avec un score identique de 3-0.
Voilà, mais... Voilà. Le problème, c'est qu'est-ce qui s'est passé qui a brillé quand tu vois que les mecs, ils jouaient et que d'un coup, ça ne marche plus. Et quand tu regardes...
Il y a l'entraîneur, Roberto De Zerbi, qui a sa part de responsabilité dans l'échec.
Oui, mais je pense qu'il n'y a pas que lui.
Qui c'est qui mène le bateau, les gars?
Ah, le patron.
Qui c'est le patron?
Il n'y en a pas.
Mais si, non, mais je veux dire, qui c'est qui assume tous ces mecs? Tout ce que tu viens de citer.
Ah, c'est Benatia.
Non, je veux dire, dans le sens où, au moment donné, si tes objectifs, tu ne les respectes pas, ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à gagner... et que tu n'arrives pas à te qualifier pour le phase des champions et que tu perds 5-0 contre le Paris Saint-Germain, tous les grands clubs qui arrivent à être performants à l'heure où on se parle aujourd'hui, ils ont connu les 8 premiers mois des échecs. L'OM, dès qu'en 8 mois il y a des échecs, il faut tout remettre en question.
Il faut tout changer, il faut tout virer. Tu n'aurais jamais dû laisser partir De Zerbi comme ça, mais encore fallait-il l'encadrer, le calmer, le laisser un peu, voilà. Et le problème, c'est que tu es parti en vrille. Là, actuellement, vous jouez pas, je vais vous punir. Demain, on va rouvrir le château d'If pour les mettre. Ils devront revenir à la nage au Vieux-Port.
J'ai jamais vu ça, la mise au vert punitive de la part des dirigeants. On a vu que ça a porté ses fruits ces dernières semaines.
Il a été complètement lâché de Zerbi, c'est tout, par Benatia.
Lâché parce que quand tu regardes.
Et il a fait craquer Longoria.
Quand tu regardes la genèse. Qui pour moi est le départ de Rabiot. Quand il y a eu l'incident Rabiot à Rennes, où malheureusement, les vestiaires, le mur, c'est du papier à cigarette, tout le monde entend tout, et le lendemain, l'équipe, ils étaient en première page, après ils n'arrêtaient pas. Mais quand tu regardes, De Zerbi, il a essayé de rattraper le coup en disant si Rabiot, il s'excuse, il a fait une connerie, c'est mon fils, tout le cinéma, c'est mon fils, machin, il a essayé de calmer.
Mais pourquoi ils sont... il n'a pas réussi à calmer?
Alors, parce qu'il y a la mère qui a mis le feu parce qu'elle voulait partir.
Je vais te dire la
vraie raison. Mais parce que Benatia, il n'a pas voulu.
Je pense que c'est Mehdi Benatia qui est quand même... Voilà.
Les gars, Mehdi Benatia, en haut, il a Macourt. C'est lui. Lui, il va dans le sens de Macourt. Si Macourt, il lui dit, et Longoria, il lui dit à un an de la fin de contrat, je vais vous dire l'histoire de Rennes. Laisse-moi te finir, tu vas voir. C'est en fait... Rowe et Rabiot, ils arrivent à un an de la fin de leur contrat. On connaît la stratégie de Longoria. Un joueur, s'il arrive à un an de faire contrat, on ne va pas le laisser libre dans un an. Donc, ils ont joué sur cette situation du vestiaire contre Rennes pour profiter de l'occasion pour vendre ces deux joueurs pour récupérer 30 millions d'euros. Ouais. Ils ont récupéré 20 millions avec Rowe, 10 millions avec Rabiot. Ils ont dit, ben voilà, on a récupéré 30 millions.
Sauf que tu as raison.
À l'américain, c'est probablement... on ne cherche pas le sportif. En
probablement probablement vrai, William. Mais le problème... c'est qu'un joueur du niveau et du leadership de Rabiot, à 10 millions, tu es introuvable. Le Real, il cherche un leader, leur milieu de terrain, ils veulent Enzo Fernandez, 120 millions à Chelsea.
Mais Patrick, Adrien Rabiot était venu à l'Olympique de Marseille pour jouer la Ligue des Champions.
Il
était qualifié pour la Ligue des Champions, il aurait dû faire le parcours en Ligue des Champions.
Les 10 millions, si tu te qualifies en Ligue des Champions, que tu as Rabiot, que tu as un taulier qui te fait derrière l'équipe, tu les récupères, tu les as pas.
Et quand tu regardes bien, il était très pote avec Rouli, avec Højbjerg et tout. Les mecs, ils n'ont jamais digéré son départ. Tu te rends compte qu'il te manque quand tu le vois jouer avec l'équipe de France. Tu te dis, mais putain, qu'est-ce qu'on a fait? Et tu as voulu. Et moi, ce qui m'énerve, alors j'en ai après Benatia en ce moment, c'est que quand tu dis, je suis rentré à Lorient, ce qui est vrai, je suis rentré dans le vestiaire, les bouteilles sont bien alignées, personne n'a renversé la table, personne n'a gueulé.
C'est les déclarations qu'il a dit après la défaite à Lorient.
J'entends ce que tu dis. Sauf que le mec qui avait renversé la table et qui avait gueulé à Rennes, tu l'as viré. Tu l'as viré comme un...
Et à la limite, je dirais Benatia, il doit rentrer, c'est lui qui doit mettre tout par terre.
Et c'est lui qui doit gueuler. Mais le problème,
c'est lui.
Quand tu as donné ta démission...
Après, on n'est pas là pour faire le procès de Mehdi Benatia ou...
que tu t'en vas.
Il ne devait jamais revenir. On va pas refaire le débat.
C'est comme les joueurs. Du moment qu'il sait que dans 2-3 mois, il n'est plus là, il peut dire ce qu'il veut. Il n'y aura aucune répercussion pour lui.
Les mecs, ça me fout. Le problème que tu as, c'est que Macourt, quand il y a eu la crise, le départ de Zerbi, il voulait partir. Un mec qui veut partir, qui n'est plus là, tu ne le retiens pas. Bon, tu étais en merde.
Il faut le lâcher.
Il a envoyé des mecs à lui... mais pas des cons, des costauds. Mec, ils ont regardé le club. Longoria, il était isolé dans son coin. Il ne s'occupait plus de rien. Il était président. Il était plus sur le terrain. Et le mec qui a tout verrouillé, qui a des mecs partout, qui a mis 7-8 mecs à lui de partout, qui a fait partir Papin, Ravanelli, parce que peut-être ils n'étaient pas assez
dociles. Tout ce qui dérangeait.
C'est lui qui tenait l'équipe.
C'est Mehdi
Benatia
qui a...
Donc, qu'est-ce qu'il a fait ? L'Américain, il a dit, écoute, laisse, c'est lui qui tient tout. Si tu le vires lui aussi, tu n'as plus rien, quoi.
Ouais, voilà, mais pareil, donc,
il a fallu faire des choix.
Pareil, hein.
Et le mec, il t'a proposé un entraîneur, son pote, qui voulait caser. Tu n'as pas regardé que le mec, il sortait d'un échec. Puisque tu es en train de négocier le départ de Rennes de ses adjoints. Ils n'étaient pas encore partis. Donc le mec, ça faisait 8 jours. Le mec, il est venu, situation de merde, il ne s'attendait sûrement pas à un merdier pareil. Et tout est parti en brille.
Et les contrats
d'ailleurs,
des joueurs,
il a fallu négocier pour que les adjoints puissent arriver dans un
les
délai
contrats,
bref.
En avril, ils commencent à négocier. Ouais. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est une année Coupe du Monde.
Oui, hein. Bien sûr. Non, mais les joueurs. On disait Greenwood, il avait un rapport avec Longoria qu'il avait fait venir, qui lui avait donné une chance. Et il s'entendait très bien avec De Zerbi. Les deux sont partis. Il ne peut pas se blairer avec Benatia. Mec, il ne joue plus. Hein.
Il y a le Napoli qui se propose pour Greenwood.
Oui, mais voilà. 60. Après, le problème, tu sais que la moitié du Benef, tu l'as acheté 30.
Ouais.
La moitié du Benef. Va à Manchester.
Le mieux,
United.
C'est on leur fait cadeau. Voilà.
Non, mais le problème, c'est que.
Après, il faudra surveiller de près la situation de Mason Greenwood à la fin de cette saison.
Le problème, moi, je veux bien les mecs qui disent ça, j'entends dans les virages. Hein, ouais. Je suis un mirage, j'en entends des conneries.
Et surtout qu'il ne va pas
se
blesser.
Sauf que Greenwood, c'est le seul joueur de classe que tu as cette année dans ton équipe.
Mais là, il ne veut pas se blesser. En plus, il n'y a plus rien à jouer.
Voilà, il a plus
le
rien
coup
à
de Lille,
jouer,
là. Le coup
c'est ton meilleur
Lille,
buteur
là.
Et meilleur.
Et
Patrick,
meilleur passeur.
Je rappelle que
contre Lille, là, le coup qu'il prend, ça la refroidit, ça.
Oui, oui, oui. Parce qu'il aurait
pu. Il est loin de sa vie.
Ça aurait pu être plus grave. Mais le mec, il est déjà parti dans la tête.
Il est parti.
Voilà. Comme Højbjerg est déjà plus là,
on
dit qu'il serait à la Juve, voilà. Et donc tu te retrouves avec une équipe. Il aurait fallu que tu cherches. Regarde De Zerbi, il est arrivé à Tottenham, club en crise, qui joue le maintien en première ligue. Qu'est-ce qu'il a fait ? C'était marqué dans l'équipe. Il a fait venir un psychologue. Il aura fait venir deux psys. Et ils entretiennent avec les mecs, ils soignent les têtes.
Oui,
quand ça va pas, soignent les têtes.
Et là, ça a porté ses fruits, puisqu'il reste sur 2 victoires. La dernière en date, dimanche, sur la pelouse.
On cherche plutôt les cambrioleurs.
Mais oui, mais le problème, si tu as quelques joueurs qui posent problème, si tu as des blessés, c'est peut-être que ton entraînement a été trop rude. Tu as trop voulu, puisque tu veux du pressing, il faut harceler. Tu en as peut-être
trop. Il nous reste 4-5 minutes.
Voilà. Et le truc, c'est que. Moi, je pense que, et pourtant, j'adore Habib, hein, c'est un mec que j'aime bien humainement et tout, mais je pense qu'il manquait d'expérience, il manquait de bouteilles. C'est pas un hasard si on prend des pompiers, les Courbis, les Gasset, il fait du super boulot. Le mec, il a de l'ancienneté.
Malheureusement, ils ne sont plus là.
Voilà, ils ne sont plus là.
Mais ces pompiers, ils s'appuient sur des joueurs qui vont fédérer pour finir une saison.
Oui, ils s'appuient sur des joueurs qui vont fédérer, ils en écartent certains. Ils relancent certains, ils essaient de donner 2-3 jeunes, mais ils ratent un match, pas grave, tu le remets, tu lui mets en confiance. Et ils essaient, Gasset, quand il était venu, il avait dit, je suis là pour soigner les esprits. Et il avait raison. Et là, tu as essayé de faire du physique parce qu'on en manquait, et non, ça n'a pas pris. Et il faut réfléchir au pourquoi, y compris dans ta structure d'équipe, pour pas refaire les mêmes erreurs.
Parlons un peu du Havre.
Le prochain match, déplacement au Havre.
Alors, dimanche soir,
avant-dernière
journée. Il y a tempête au Havre, je vous le dis de suite. Il y a gros orage.
Ouais. Ben, s'il y a orage, je vous invite à
au désespoir.
Barcelone-Real Madrid aussi, un petit classico.
On lâche pas l'OM, même
non,
si
on ne lâche pas, mais si vous voyez qu'il y a le même bis repetita à l'OM, hein, à Lorient 2-0.
Mais un vrai supporter, il regarde le match dans les bons moments comme dans les mauvais.
Ah, mais ça, c'est
après, tu as le temps de revoir Barcelone-Real en boucle.
Mais ça, je suis d'accord avec toi, il faut les soutenir. Mais si au bout d'un moment, on voit que c'est bis repetita et que les joueurs, il n'y a aucune.
Mais là, mais si on n'est pas à l'abri de revoir le même scénario que samedi après-midi sur la pelouse à Beaujoire.
Les anciens ont connu tout ça.
Le problème n'est pas le Havre. Le problème, c'est toi.
C'est l'OM.
Si tu fais un match comme à Nantes ou à Lorient,
voilà.
Encore contre Nice, tu avais mis de l'engagement.
Oui, mais pourquoi? Parce qu'en fait, il a tout bloqué l'axe et il a fait jouer Timothy Weah et Emerson Palmieri sur les côtés et ça venait que par les côtés.
Oui,
le danger.
Mais quand ils ont compris, ils tombent fermés.
Mais là, si on vous écoute avant de rendre l'antenne et de boucler, les joueurs vont arriver dans quel état d'esprit pour ce déplacement au Havre dimanche soir?
Est-ce qu'ils ont un état d'esprit encore? C'est ça le problème.
Non, ils vont laisser rouler jusqu'à la fin de saison.
Ils déroulent.
Je souhaite me tromper de tout cœur, mais vous pouvez dire. L'OM est à 53 points. À l'heure où on se parle, ils finiront à 53 points.
Logiquement, pas... oui. Tu te fais taper chez toi par Rennes, la dernière. Les Rennes,
c'est une
Rennes
situation.
Rennes joue une qualif. Et il faut espérer que Strasbourg ne gagne pas ses trois matchs pour qu'on ne se retrouve pas huitième. C'est-à-dire hors de Coupe d'Europe.
Après, il y a quelque chose qui me fera plaisir, c'est de revoir M. Rongier. Grand monsieur.
Heureusement que Strasbourg, ils ont un match retour contre Vallecano. Et donc, ce que tu dis, ça peut se faire.
Oui,
si jamais ils se font sortir par Vallecano, c'est réel.
Il y a des chances qu'il lâche des plumes. Mais si tu finis.
Ça dépendra de la suite du parcours européen du Racing Club de Strasbourg.
Franck, c'est pour toi le dernier mot. On t'aime.
Oui.
Voilà, c'est sur ces paroles qu'on va rendre l'antenne. C'est très vite passé cette petite heure. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% foot. On vous souhaite bonne fin d'après-midi et bonne semaine à tous. Et allez l'OM.